franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Vous commencez ce matin par la situation au Qatar après sa mise au ban par l'Arabie Saoudite et ses alliés.
Une crise diplomatique, ça donne quoi pour les premiers concernés? Eh bien d'un seul coup, le Qatar s'est transformé en Venezuela. Yves Bourdillon dans Les Échos décrit la situation concrète vécue par les Qataris au lendemain de la décision de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de Bahreïn et des Émirats Unis de rompre leurs relations diplomatiques avec ce petit état du Golfe. Queue interminable de chariots aux caisses des supermarchés. Hier, les ménages continuaient de stocker préventivement du lait, du riz, du poulet, du sucre, produit phare de la rupture du jeûne en période de Ramadan, raconte-t-il. Le gouvernement a d'ailleurs fait déstocker des vivres en fin de journée pour remplir les rayons. Doha ne dispose que de 17 jours d'autosuffisance alimentaire. Le pays importe 99% de ses produits alimentaires. Pays donc qui semble coupé du monde depuis lundi. Aucun camion d'approvisionnement n'est passé par la frontière avec l'Arabie Saoudite. Pour autant, s'il est en quarantaine diplomatique, il ne subit pas non plus un blocus total, puisque son port peut être achalandé. Et l'Iran a promis de se substituer au pays du Golfe dans les 12 heures pour pallier toute pénurie. Alors, il y a la crise diplomatique, est-ce qu'elle produit pour les habitants donc? Est-ce qu'elle produit peut-être aussi en effet d'aubaine pour la France? Hier, le ministre de la Justice, François Bayrou, a affiché sa volonté de mettre fin au traitement favorable dont bénéficie Doha chez nous. Depuis que Nicolas Sarkozy lui avait accordé un avantage fiscal incroyable avec exonération des plus-values immobilières et régime dérogatoire en matière d'ISF. La France était devenue un véritable paradis fiscal pour le Qatar, qui a beaucoup investi chez nous, notamment dans l'immobilier et l'hôtellerie de luxe. Le manque à gagner pour les finances publiques françaises a été évalué à au moins 150 millions d'euros. Pour autant, les spécialistes en conviennent toujours dans Les Échos. Ce sera très dur, presque impossible de revenir sur cette convention fiscale. C'est pas si facile donc de perdre son statut de paradis.
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On poursuit avec quelques commentaires de la presse ce matin sur la réforme du Code du Travail, donc entreprise par notre invité Muriel Pénicaud.
Alors ça se partage entre les dubitatifs, les enthousiastes a priori et ceux qui sont déjà à fond contre. Dans Les Échos, Cécile Cornudet fait le parallèle entre votre méthode et celle utilisée pour sa campagne présidentielle par Emmanuel Macron. Lui avait dit « et droite et gauche », et bien vous, vous dites Muriel Pénicaud, et entreprise et salarié. L'exécutif, dit-elle, est un effaceur de clivage, mais peut-on dépasser cette conflictualité si française qui mine, bloque et paralyse, se demande-t-elle. Eh bien en fait, plus la majorité de Macron sera large à l'Assemblée, plus il sera difficile pour les syndicats de s'opposer à lui, conclut-elle. L'éditorialiste du Figaro, Gaëtan de Capel, s'enthousiasme lui déjà de ce petit et fragile miracle, dit-il. Va-t-on pour la première fois au pays de la lutte des classes lancer une réforme importante sans provoquer de drame national? Eh bien, il veut y croire. Ce qui change tout évidemment par rapport à la loi El Khomri, c'est l'onction du suffrage universel avant la réforme. Dans la Charente libre, Jean-Louis Hervoy relève qu'il y a encore assez de flou pour cacher les loups, dit-il. Aux manifestations dans la rue en 2016, répond le suffrage universel en 2017. Alors qui peut contester la légitimité du nouveau pouvoir à mettre en application le programme sur lequel il s'est fait élire? Pascal Coqui, dans les dernières nouvelles d'Alsace, note lui que votre but c'est bien d'en dire le moins possible sur le contenu de la réforme. Mais le peu qu'on en sait suffit à l'humanité pour s'opposer résolument et sans attendre. La technique du rideau de fumigène avait été utilisée avant l'élection présidentielle. Ça recommence pour obtenir une écrasante majorité de députés godillots, écrit Patrick Appelmuller. Mais nous en savons déjà assez pour voir le loup sous la laine de l'agneau, prévient-il.
Dans la presse ce matin également, Hélène, zoom sur la société civile mise en avant par Emmanuel Macron pour renouveler la politique.
Oui, c'est l'hebdomadaire Le 1 qui consacre son numéro à cette société civile, surtout en fait pour en montrer les limites. Titre, société civile, mon œil. À lire d'abord les conseils et instructions caustiques de Robert Solé au ministre issu de celle-ci. Félicitations, leur dit-il, mais ne vous attachez pas à votre fauteuil rehaussé de dorure. C'est un siège éjectable. Certains de vos prédécesseurs ont explosé en plein vol et n'ont pas tenu 2 semaines. Le sociologue Gauthier Pirotte, lui, s'arrête plus sérieusement sur les caractéristiques de la société civile macronienne qui a notamment fourni des candidats aux législatives. Si j'étais bourdieusien, dit-il, je dirais que les gens recrutés par En Marche, c'est une société civile de CSP+, voire plus. Ils disposent déjà de capitaux culturels et économiques importants. Car si participer à la société civile est connoté positivement, cette participation a un coût. Il faut se rendre disponible, libérer du temps, avoir de l'argent. Les exclus ne pensent donc même pas à s'impliquer dans de telles initiatives. Si la société civile, vantée par Emmanuel Macron, répond donc à une demande de l'électorat en s'appuyant sur l'image positive qu'elle a, contrairement évidemment à celle des politiques, il y a quand même une entourloupe, juge Gauthier Pirotte, car ce n'est pas la société civile contestataire ou celle qui se présente comme un contre-pouvoir qui émerge. C'est juste un appel d'air, une élite alternative, mais pas une contre-élite. Une société civile, dit-il, de youpi cool, décidée à régénérer la scène politique, mais pas à la transformer, dit-il. Voilà, tout changer pour que rien ne change, ça nous rappelle forcément quelque chose.
On termine par une décision de justice qui fera date.
Dans la litanie des procès impliquant le négationniste Robert Forisson depuis plus de 40 ans, c'est une première, relève Jean-Baptiste Jacquin du Monde. La journaliste, toujours du Monde, Ariane Chemin, poursuivie pour diffamation, a été relaxée hier par le tribunal de grande instance de Paris. Désormais, écrire que Robert Forisson est un menteur professionnel, un falsificateur et un faussaire de l'histoire et conforme à la vérité, a jugé le tribunal. Car ce n'est pas au titre habituel de la bonne foi journalistique, habituellement invoqué, que l'historien négationniste a perdu son procès, mais bien au vu pour la première fois donc de ses nombreuses condamnations pour contestation de crimes contre l'humanité. Un jugement sur le fond, en quelque sorte, des méthodes de Forisson et de l'absence de caractère scientifique de ses travaux. Et puis pour finir, parce qu'une revue de presse n'existe que parce qu'il existe une presse libre et surtout des journalistes libres, je tenais à relayer l'appel à manifester en faveur de Mathias Depardon, photojournaliste détenu arbitrairement par la Turquie depuis le 8 mai dernier. Pour l'instant, les interventions d'Emmanuel Macron auprès du président turc n'ont rien donné. Mobilisation donc ce matin devant la mairie du 4e arrondissement de Paris.
Je crois que c'est à 9h30. Hein.
Exactement, pour demander la libération de Mathias Depardon.
Merci à vous. Hélène Jouan, il se passe des choses ce matin à Téhéran, on ne sait pas bien quoi. Il y a quelques minutes, on nous annonçait une fusillade à l'intérieur du Parlement iranien avec plusieurs blessés. À l'instant, les médias d'État parlent d'un homme armé qui s'est introduit au mausolée de l'ayatollah Khomeini. Plusieurs blessés aussi également, donc apparemment une double agression, attaque, en tout cas à Téhéran, auprès de lieux officiels.